Good Morning Business. Le débat.
Le débat ce matin entre Stéphane Pedrazzi et Jean-Marc Daniel. Une grande coalition allant du PS au LR avec tous les démocrates de bonne volonté. En gros, tout le monde sauf le RN et LFI. Emmanuel Macron l'a évoqué lors du dernier conseil des ministres, c'était hier. Est-ce que économiquement, ça a le moindre sens, Stéphane ?
Alors, ce sera le grand écart, c'est évident. Je les ai classés en trois catégories. D'abord, il y a ce qui relève du fantasme. Par exemple, taxer les revenus à 90% au-delà d'une certaine somme, taxer les héritages à 95%. 15% au-dessus de 10,5 millions d'euros. Fantasme, parce que tout le monde sait pertinemment que ce sera impossible à mettre en place. Le Conseil constitutionnel ne va jamais donner son feu vert pour une taxation aussi élevée. Après, il y a ce qui relève du symbole. Il y en a un en particulier, c'est l'ISF. On sait que c'est un totem idéologique pour la gauche, c'est un épouvantail pour la droite. Objectivement, ça ne remet pas en cause les grands équilibres budgétaires. L'ISF rapportait à peu près 5 milliards d'euros avant d'être supprimé en 2018. L'IFI, qui a remplacé l'ISF, rapportait en 2022 un peu plus de 2 milliards d'euros. Donc la différence, c'est à peine 3 milliards d'euros. Vous allez me dire, c'est l'épaisseur du trait rapportée à la taille de l'État. Donc on est plus, à mon avis, dans le débat idéologique que dans le débat économique. En revanche, là où il y a un problème, et c'est la troisième catégorie, ce sont les réformes structurelles. Tout ce qui remet en cause des grands équilibres budgétaires. Alors là, on va parler de la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, positions qui sont évidemment irréconciliables. Le retour à la retraite à 60 ans, à taux plein, avec 40 annuités, c'est-à-dire grosso modo la situation qu'on avait en 2010, coûterait 70 milliards d'euros à horizon 2027 selon l'estimation moyenne de l'Institut Montaigne. Je dis moyenne parce qu'en fait c'est une fourchette, elle va de 36 à 123 milliards d'euros. 123 milliards d'euros, je ne vois pas comment on pourrait trouver un compromis sur un grand écart aussi important.
Jean-Marc, on se fantasme une coalition en France ?
Non, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, Stéphane s'est posé la question, est-ce que le centre serait prêt à accepter les mesures proposées par le nouveau Front Populaire ? Je crois que ce n'est pas dans ce sens que ça se marche. Je pense que dans le sens inverse, est-ce qu'une partie du nouveau Front Populaire, en particulier les écologistes et les socialistes, sont prêts à apporter un soutien alors, en 1924, je rappelle aux gens qui, comme moi, ont vécu cette période.
Vous étiez là en 1924.
J'étais déjà là, évidemment. Bien sûr. En 1924, Léon Blum, dont plus personne ne sait au juste qui c'est, apparemment.
Mathilde Panot
peut avoir un diplôme de Sciences Po sans savoir qui est Léon Blum. Mais moi, qui sais qui est Léon Blum ? En 1924, Léon Blum, qui était le responsable des socialistes au Parlement, avait défini ce qu'il appelait le soutien sans participation. Idée qui a été reprise en 1936 par Maurice Thorez. Là, alors, je ne vais pas poser la question à Mathilde Panot pour savoir si elle sait qui est Maurice Thorez, parce qu'elle l'aurait. Elle serait paniquée.
Bon, laissez Mathilde Panot tranquille, Jean-Marc.
Voilà, et donc, c'était donc l'idée du soutien sans participation. Et cette notion de soutien sans participation, c'était de considérer que le programme qui était mis en place n'était pas le programme dont rêvait le Parti Socialiste en 1924 ou le Parti Communiste en 1936, mais c'était un moindre mal. Et si on regarde un peu plus loin, en 1956, au moment du Front Républicain, la question qui s'était posée, c'était est-ce que les communistes peuvent soutenir ou non ce programme ? Et Mendès France avait dit, moi je ne veux pas avoir le soutien des communistes, et les communistes avaient dit, ce qu'ils avaient fait en 1954, on est prêt à vous soutenir sans participation. Et donc je crois que c'est ce schéma-là, c'est-à-dire c'est pas une coalition avec des ministres qui seraient membres du gouvernement, c'est une espèce d'absence de lutte.
Mais ça n'arrivera jamais. Si
alors,
vous y croyez.
Oui, je pense que les institutions de la Ve République ont été conçues pour ça. C'est-à-dire le fait que dans les institutions de la Ve République, vous n'êtes pas obligé d'apporter votre soutien à quelqu'un. Au travers du 49-3, il suffit
faut
que
juste
vous...
pas l'attaquer, quoi.
Il suffit que vous ne disiez pas le contraire. Et donc, je pense qu'il peut y avoir un accord sur les trois sujets qui sont les sujets sur lesquels tout le monde est à peu près d'accord. Le premier sujet, tout le monde a fait sa campagne sur l'idée qu'il faut d'une façon ou d'une autre maintenir le pouvoir d'achat. Donc des mesures qui seraient des mesures de revalorisation du SMIC, qui ne sont pas d'ailleurs devant le Parlement, mais un certain nombre de mesures qui pourraient être des mesures...
Le blocage des prix également ?
Non, mais quand le gouvernement sortant, parce que ça se fera, encore une fois, sur la base des propositions du gouvernement sortant. Quand le président de la République avait dit « je ferai 2 milliards d'impôts de baisse... »
Sur les classes moyennes.
Sur les classes moyennes de baisse d'impôts, je pense qu'il aura un soutien, il pourra...
Donc le pouvoir d'achat,
Je pense que la deuxième chose, c'est effectivement un certain nombre d'efforts sur les dépenses publiques avec la préservation de quelques secteurs comme la défense et l'éducation, mais une recherche systématique d'efforts sur les dépenses publiques. Et je pense que le troisième élément, c'est de ne pas toucher à la réforme des retraites. C'est-à-dire d'en rester là sur la réforme des retraites.
Mais c'est devenu un totem.
Mais vous voyez la gauche être d'accord avec tout ça?
Je pense que la gauche ne sera pas d'accord. Elle dira, je ne vote pas contre.
C'est la coalition vue par Jean-Marc, oui.
Non, mais la coalition du moindre mal est là.
Il y a peut-être une solution intermédiaire qui consisterait à donner des mesures symboliques à la gauche, par exemple le retour de l'ISF, en contrepartie d'un statu quo sur la réforme des retraites. Ça se négociera comme ça.
Mais vous voyez le gouvernement sortant remettre l'ISF, franchement?
Non, justement, je pense que c'est le gouvernement sortant qui aura
Mais on l'appellera autrement.
Qui agira, parce que c'est ni la gauche ni le Rassemblement National qui seront dans cette affaire en train de constituer un gouvernement, d'être la force qui appelle à gouverner, d'autant plus que ni la gauche ni la droite, sous forme de Rassemblement National, le souhaite gouverner.
Donc ça sera un Macron 3 ?
Macron, ce sera ce qui s'était passé dans la précédente Assemblée, c'est-à-dire un jeu d'équilibriste en se disant, il y a 2-3 ans à tenir et il faut éviter de trop heurter nos partenaires européens tout en évitant de trop heurter notre électorat.
Il est bien positif,
je trouve bien optimiste,
ce Jean-Marc Daniel, beaucoup plus que les Français qui ont le moral dans les chaussettes.
Oui, je rappelle quand même que nous nous rapprochons de la 4ème République, donc ça fonctionnait pas mal, et je rappelle que la sœur latine, c'est-à-dire en Italie, a 945 parlementaires, et je le disais là l'autre jour, à la fin de la dernière session parlementaire, il y en avait 211 qui avaient changé de camp pendant les 4 ans de la session parlementaire. Donc, il y a une certaine souplesse politique qui existe un peu dans nos pays démocratiques.
Ça fonctionnait pas mal, la 4ème République ? Je suis un petit peu allé à l'école, pas autant que Jean-Marc, mais on a toujours appris que c'était quand même le royaume de l'instabilité, la 4ème.
Oui, justement, mais c'était le royaume de la croissance économique, c'est le royaume qui a réussi à sortir la France de son empire colonial et qui a réussi à faire effectivement progresser le pays.
Mais c'était instable.
On fera un autre débat pour savoir si la 4ème République c'était mieux que la 5ème République. On fera ça un autre jour.
Just like backyard barbecues or a day at the pool, the Three Rivers Festival has always been a part of our summer fun. And the festival returns July 12th to the 20th. It kicks off with the annual Three Rivers Festival Parade. Browse art in the park with local artisans. Bring the family to Children's Fest. Stroll through Junk Food Alley. And don't forget about the festival concerts at the Hoosier Lottery stage with live music from nationally renowned acts. You can buy your concert tickets or check out a schedule of events at threeriversfestival.org. Don't miss the best summer experience in Fort Wayne, the Three Rivers Festival.